terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekwala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Parker May en face de moi, bonjour.
Bonjour.
Très content de te retrouver quand même. Hein. On va dire les choses, parce que ça fait longtemps que.
Ça fait longtemps
qu'on s'est vu. Puis après, les jours, les semaines, les mois, les années passent. Puis après, chacun est pris de son côté. Mais comment dire ça, je suis toujours avec beaucoup d'attention ce que tu fais. Parce que, évidemment, il y a plusieurs casquettes. Il y a celle de. Alors, laquelle on va mettre en avant d'ailleurs? Je vais te laisser choisir. Bah oui, tu es quelqu'un très impliqué dans le communautaire, comme on dit, dans le monde communautaire. Mais tu es aussi un artiste, documentariste. Mais aujourd'hui, je reçois un commissaire d'exposition, hein, directeur artistique de cette exposition qui a lieu au quartier chinois, intitulée « Lieu de mémoire du quartier chinois, évoquer un quartier vivant ». Voilà. Et je souhaite vraiment qu'on en parle. Mais revenons un peu, Parker May. Qui est Parker May? J'ai dit artiste, documentariste. Et dans artiste, il y a tout. Parce que même les platines, tu touches. La vidéo, tu touches. L'image, tu touches. Bref, qui est Parker May? Par lui-même.
Ben, je suis... bonjour tout le monde. Mm-hmm. Vraiment content. Merci de l'invitation. Vraiment, ça fait plaisir de revenir derrière le micro. Je suis montréalais, d'origine poissonnaise, cantonaise, pourrait dire chinoise, de quatrième génération, basé à Montréal depuis 15 ans. Je suis originaire de Vancouver. Effectivement, je suis à la base musicien. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est connu,
n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mm-hmm.
En faisant des spectacles, des shows, plus dans la communauté africaine. Mm-hmm. Dans lequel je me suis impliqué à travers mon émission également que j'avais à l'époque à CKUT. Et du fil en aiguille, je suis devenu DJ. Oui, c'est vrai que je touche aussi à la production multimédia. Et depuis quelques années, je m'implique de plus en plus activement dans le quartier chinois et dans la communauté chinoise ici à Montréal et à la communauté asiatique plus largement parlant. Pour non seulement, mais on est là pour parler de l'exposition, mais il y a tout un contexte dans lequel cette exposition s'est inscrite, c'est-à-dire le contexte de mobilisation populaire qui se fait autour des différents enjeux auxquels le quartier fait face.
Alors, mettons tout de suite, allons directement, tu viens de le dire, puis je pense à ça, quand on dit quartier chinois, est-ce que c'est juste une... Je ne vais pas dire une erreur de langage, c'est une faiblesse de langage, ou c'est uniquement des quartiers chinois. C'est une manière de dire quartier asiatique, ou c'est parce qu'il y a plus de Chinois généralement dans le quartier. Je le dis autant à Montréal que dans toutes les grandes métropoles occidentales où il y a un quartier et on dit toujours quartier chinois.
Ouais. Ben, c'est très intéressant et elle est là la question, hein, parce que pourquoi il y a un quartier chinois et tout partout et pas un autre d'autres quartiers? Ben, il y a sûrement d'autres quartiers, mais là vraiment on voit un quartier chinois dans toutes les grandes villes du Canada et d'Amérique du Nord. Edmonton, Vancouver, Toronto, Saskatoon, ainsi de suite. Ben, c'est parce que, premièrement, oui, c'est vrai que les premiers arrivants de l'Asie autour de 1850, c'était beaucoup des Chinois qui, eux, fuyaient un environnement qui était devenu invivable, qui était plein de crise. Il y a une crise politique, il y avait une famine, il y avait beaucoup d'instabilité qui avait été causée d'ailleurs
en Chine.
En Chine,
ouais, c'est ça.
Par c'était les séquelles de la guerre de l'opium qui avait été imposé par les pouvoirs impérialistes, les Britanniques, les Français, ainsi de suite, qui voulaient en fait avoir accès à la Chine pour faire de l'échange, de libre-échange. La Chine a résisté, il y a eu donc l'introduction de l'opium par les Britanniques. La Chine a capitulé en saisissant cet opium, en le brûlant. Et ce qui a mené à la guerre, la Chine a perdu, ils devaient payer des réparations, et ces réparations-là étaient transmises au peuple à payer en forme d'impôt. C'est pour ça que il y a beaucoup de Chinois qui ont décidé de partir, surtout qui étaient du sud de la Chine, qui avaient la possibilité de partir. Donc c'est autour de cette période-là qu'ils sont arrivés. Et à cause des lois discriminatoires, à cause du fait qu'ils ne pouvaient pas nécessairement vivre n'importe où.
Ils se sont regroupés.
Oui, exactement. Mm-hmm. Ils se sont regroupés dans des quartiers qu'on connaît aujourd'hui comme étant les quartiers chinois. C'est sûr qu'au fil des années, il y a eu d'autres communautés, surtout à Montréal, on peut parler de la communauté vietnamienne, cambodgienne, et ainsi de suite, qui sont passées par là. Donc, on parle plutôt des communautés au pluriel. Mm-hmm. Mais c'est surtout, bien sûr, la communauté chinoise.
La communauté chinoise. Et ça, voilà encore très, très rapidement une courte leçon qui montre à quel point cette communauté est ancienne dans ce pays, parce qu'on a tendance à l'oublier un peu. Et tu mentionnais justement que toi, tu es originaire de Vancouver, puis je me rappelle être allé il y a quelques années de cela en Alberta, puis dans la région de Calgary, je pense qu'on rapidement une histoire courte, on allait je pense à Banff, puis il y avait une espèce de monument à la mémoire d'un des tout premiers Chinois qui était arrivé dans cette époque-là, et on est en train de parler d'années 1800 et des poussières quoi qui étaient arrivées dans cette région-là en effet. Alors, ce quartier, tu l'as dit, toi tu es venu ici, puis tu as commencé à t'impliquer. Là, tu t'es impliqué dans la communauté chinoise, donc à travers un certain nombre d'activités. Le quartier chinois, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Et quand je dis ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a eu, parce que là on parle de évoquer un quartier vivant. Est-ce que le quartier chinois était en train de dépérir, de sombrer, et comment?
Je dirais que oui, je dirais que ça se passe encore, non? Quoi qu'on essaie de contrer ça avec nos activités, mais c'est vrai que depuis, il y a eu la période, bien sûr, des lois discriminatoires, je vais commencer là, il y a eu la taxe d'entrée après, la complétion du chemin de fer à travers les Rocheuses, qui était la partie la plus dangereuse, qui a amené la mort de plusieurs milliers de travailleurs chinois. Le gouvernement canadien ne voulait plus mais les voyait comme une présence non voulue dans le pays, et ils ont pour dire ça gentiment, et ils ont donc instauré la taxe d'entrée qui était de $50 au début, et puis a rapidement augmenté jusqu'à atteindre $500 en 1903. C'est-à-dire que tout Chinois qui voulait entrer dans le pays devait payer $500, c'est-à-dire 2 ans de salaire, l'équivalent de 2 ans de salaire. Et ça, c'était un énorme fardeau pour les Chinois qui désiraient amener leur famille. Ils ne pouvaient tout simplement pas le faire. Ils devaient travailler des longues heures. Mon grand-papa, par exemple, a dû travailler, économiser à peu près 5 ans. Et si tu regardes les dates de naissance de ses frères et sœurs, en fait, ils sont séparés de 5 ans parce que ça lui prenait mon arrière-grand-père. Excuse-moi, j'ai dit mon grand-père, mais c'était mon arrière-grand-père. Il devait revenir à tous les 5 ans pour rester avec sa famille, avec sa femme. Mm-hmm. Et puis ensuite revenir au Canada travailler. À partir de 1923, il y avait la loi d'exclusion qui a fait en sorte que toute immigration chinoise était illégal, en fait, rendu illégal, et ça c'était la seule loi qui a été ciblée un groupe ethnique particulier.
Un groupe ethnique particulier, ouais, c'est ça.
Et ça c'est significatif parce que c'était le 1er juillet 1923. Donc là on est mi-juillet 2023, donc il y a 2 semaines, ça fait le 100e anniversaire de cette journée d'humiliation.
Ouais. Je crois qu'on a évoqué ça ici avec Estelle Mie, journaliste, qui avait fait un reportage justement sur ces anciens-là, puis laissant entendre de la présence effectivement chinoise et tout ça.
Mais pour revenir vers le quartier en tant que tel, donc il y a eu, après ça, dans les années 70, plusieurs projets d'infrastructure, dont le complexe des jardins, Hydro-Québec. Ensuite, il y a eu le complexe Guy Favreau, suivi de Palais des Congrès. Ensuite, l'autoroute Ville-Marie. Tous ces projets-là, qui étaient sous la bannière de développement urbain, avaient effectivement amputé et en fait, en sorte que le quartier ne pouvait pas se développer.
C'est ça.
Et dans le cas des complexes Guy Favreau, il y avait, en fait, ça faisait partie du quartier chinois. Il y avait des commerces là, il y avait des logements, il y avait une école, terrain de jeu. Et tout ça, ça avait été exproprié pour construire cette monstruosité qui est complexe, qu'il faut qu'il n'y a rien à faire architecturalement, ni avec les besoins de la communauté, ni avec rien d'autre. Donc ça, ça a amputé un tiers du quartier. Donc je dis ça pour dire que pour mettre le contexte, là, c'est pas juste dans les dernières années, c'est depuis les années 70 qu'on reçoit, qu'on encaisse des injustices. Et récemment, bien sûr, bon, il y a eu d'autres petits détails, mais la période de la pandémie, le racisme anti-asiatique aussi a pris a été néfaste pour le quartier.
Sauf erreur de ma part, il me semble que le quartier a obtenu récemment un statut de quartier patrimonial, non, quelque chose comme ça, de la part de la ville. J'ai pas vérifié juste avant, mais il me semble qu'il y a, ou alors c'est en projet.
Il y a eu exactement entre 2000 à peu près 2018 et 2022, il y a eu une mobilisation citoyenne à travers le groupe de travail sur le quartier chinois, Chinatown Working Group, qui a fait un énorme travail pour à la fois sensibiliser la population générale, mais aussi au niveau de la ville, le travail au niveau de la ville et l'arrondissement. Pour dire, bon, quel est votre plan, finalement? Vous faites des trucs ici, à droite, à gauche, puis il n'y a pas de plan, il n'y avait pas de vision à long terme. Et avec, donc, la vente du bâtiment Wings Noodles, qui est le bâtiment au coin de côté de la Gauchetière, qui est un bâtiment qui est extrêmement important dans le quartier, un des plus vieux, sinon le plus vieux, à Schiller Corn Bluth, en 2020, si je ne me trompe pas, ça sonnait l'alarme pour nous. Et il y a un groupe de citoyens concernés qui étaient venus ensemble pour essayer de combattre ça. À travers, bon, je vous ai parlé des détails, il y a eu plusieurs étapes, on a pu former des comités, aller faire une pétition, aller vers la ville et tout ça. Finalement, oui, la ville a accepté donc, de reconnaître, premièrement, le noyau institutionnel du quartier chinois. C'est-à-dire que un des problèmes, c'est que le quartier chinois se trouve dans l'arrondissement ici.
Ville-Marie.
Exactement. Mm-hmm. Qui, comme vous savez...
Le centre, on va dire ça, le centre un peu
donc
moins.
Donc, les standards en termes de densité, en termes de grandeur de bâtiment, on parle de gratte-ciel.
Ouais, ça
n'a rien à faire avec l'échelle plus humaine qui est le quartier chinois. Mm. Mais le quartier chinois n'était pas reconnu. On n'était pas reconnu comme zone. Mm-hmm. Et donc, on a réussi à le faire reconnaître comme zone spéciale.
OK.
Un petit peu, avec ses propres besoins. Et ça, en plus de reconnaître certains bâtiments avec le statut patrimonial.
OK, qu'on ne touche pas. Alors, cette exposition-là, lieu de mémoire du quartier chinois, évoquait un quartier vivant. J'ai pas eu la chance de voir encore l'exposition. C'est une exposition, c'est quoi? C'est de la photographie? C'est quoi?
C'est une exposition extérieure qui est gratuite, donc qui est vraiment... sur la rue de la Couchetière, un côté que vous pouvez voir jusqu'au 15 octobre, qui est présenté en collaboration avec le MEM, donc le Centre des mémoires montréalaises, qui est juste en face de où nous sommes en ce moment. Mais ça se passe pas là, ça se passe dans
ça
le quartier.
Ça se passe dans le quartier, ouais. C'est pas ici. Ouais, tout à fait.
Et donc, il s'agit d'une exposition qui met de l'avant des lieux de mémoire, c'est-à-dire des lieux... On sait que le quartier chinois est en train de changer rapidement. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, qui se perdent, en fait. Des lieux, et avec ces lieux-là, des mémoires de comment le quartier était avant. Donc, des lieux qui sont soit disparus ou qui sont en train de disparaître, qui sont porteurs, qui sont véhicules de mémoire, de ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Parce que on nous demande parfois pourquoi vous mettez tant d'énergie à trouver le quartier chinois, tandis que là, présentement, on peut aller on peut aller à Concordia, on peut aller à Brossard, faire une petite épicerie dans le TNT supermarket.
Différents lieux.
Donc, c'est quoi l'intérêt? Et nous, on dit que ce que ces lieux-là n'ont pas, c'est le patrimoine immatériel,
toute cette
histoire-là, tous ces gens, toutes ces histoires, ces personnes qui animent le quartier, qui rendent ça un quartier vivant. Et donc ces lieux-là, c'est comme un cadre dans lequel on ramasse tous ces contenus-là, entre autres donc les témoignages des personnes qui se rappellent de ces lieux-là, des photos d'archives et des articles
qui raconte la vie du quartier et tout.
L'histoire et les faits, plus d'un point de vue journalistique. Mm-hmm. Et d'ailleurs, Estelle n'est pas participée à ce projet-là.
Elle n'a pas participé à ce projet. On parle beaucoup, pour terminer, on parle beaucoup de gentrification à Montréal et un peu partout. C'est vraiment un mot qui revient très souvent. C'est quelque chose contre, du moins, on peut espérer que ça, au niveau du quartier chinois, justement, on évitera ça, du moins dans ce qui reste de la zone pour laquelle vous vous battez aujourd'hui.
Oui, c'est un grand problème. C'est d'ailleurs, ça fait partie de nos préoccupations premières. Malheureusement, on a déjà perdu plusieurs batailles. Déjà, si vous voyez vers la porte sud du quartier chinois, il y a le Serenity Condos, puis il y a VG1 qui sont déjà presque complétés. Moi, je crois qu'ils sont ouverts, en fait, maintenant. Qui détonnent du quartier complètement, qui n'ont rien à faire avec aussi non seulement l'architecture, mais les besoins du quartier, qui est bien sûr plus de logement social. On n'a pas d'espace vert, on n'a pas de centre de santé, on n'a pas de bibliothèque. Donc, toutes ces choses-là qu'on prend pour acquis dans les autres quartiers de Montréal, que tous les quartiers sûrement vont avoir, il n'y en a pas ici. Mm-hmm. Donc, pourquoi? Et on essaie, par ces actions-là, de militer pour ça. C'est pas juste qu'on est contre le développement. C'est pas ça, nécessairement. On veut pas mettre un bocal sur le quartier chinois pour le préserver comme tel. Mais on est contre, bien sûr, des projets qui ne sont pas alignés avec les besoins du quartier. Mmh.
Voilà. C'est-à-dire qu'en cas de bibliothèque, par exemple, s'il faut une bibliothèque, s'il faut un centre de santé, il faut que ce soit, que ça vienne, comment dire ça, que ça émane des habitants du quartier, à leur image. Est-ce que c'est ça? Je comprends ça comme ça?
Exactement. Et ça aussi, ça fait partie de l'essence de l'exposition. Mm-hmm. C'est de présenter du contenu qui est un peu à l'image du quartier. C'est en fait une exposition qui est une deuxième phase d'une exposition qui a eu lieu en 2021-2022, fait des profils des personnes, plus des résidents du quartier. Et là encore, on mettait des portraits, il y a des portraits assez larges de 12-15 personnes, je crois, qui habitaient dans le quartier ou qui avaient un lien fort avec le quartier. Et là, ça, juste de voir leur visage, de se voir eux-mêmes représentés dans de l'art ou dans une exposition comme ça, était très rare, en fait.
Tout à fait. Mmh. Donc, on rappelle encore, hein, c'est jusqu'au 15 octobre, et puis c'est gratuit. Là, il y a cette information là, Eve me donne. Ce documentaire de, parce qu'elle écrit comme. Il y a ce documentaire de Karen Shaw, intitulé Big Fight in Little Chinatown, qui traite des différentes luttes des quartiers chinois des grandes villes. J'imagine que c'est un documentaire que tu connais. Prends la parole, Eve. On le voit où? Est-ce qu'il est sur les plateformes?
Ben là, il tourne un petit peu en ce moment parce qu'elle fait de la promotion, mais il était sorti le jour du verglas, le fameux mercredi 19 quelque chose. J'ai eu le privilège de le voir au musée McCord.
Okay.
Donc, c'est ça. Ça traite des différentes luttes des quartiers chinois à travers les grandes villes. Mm-hmm.
Ça va on pourra le voir en fait en septembre, le 28 septembre justement, au même.
C'est juste à côté
de la fondation DIA qui co-organise un événement qui s'appelle la Repenser Chinatown, justement. Et dans le contexte de ce forum-là, qui dure 3 jours, la cérémonie ou l'événement d'ouverture sera une projection de ce film-là. Vous allez pouvoir le voir.
Ce projet, bon. Estelle, tu nous entends là? J'imagine que tu es en train d'écouter l'émission. Plus ou moins, m'avait un peu parlé de ce grand colloque là qui devrait arriver bientôt. Puis on s'était promis qu'on allait prendre le temps d'en parler. Mais bon, le documentaire en question, Big Fight in Little Chinatown, sera diffusé à ce moment-là. Mais merci beaucoup, Parker. J'invite les gens à aller voir cette exposition là. Je rappelle encore. Lieu de mémoire du quartier chinois, évoquer un quartier vivant. On a envie à côté des grandes bâtisses là, quand même d'avoir de petits espaces de vie. Ça fait aussi partie de nos vies. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et puis on va se faire le devoir au moins une fois chacun de nous dans cette équipe d'aller y faire un tour. Oui, je regarde les visages,
c'est tellement
je sens
proche
déjà.
Ici,
c'est ça que je dis. Je vois déjà des gens qui vont y aller là tout de suite. Mais vraiment, non, on a la possibilité. C'est juste à côté de nous. Et puis voilà, on aura la chance de toute façon d'en reparler jusqu'au 15 octobre. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Parker-Man. Je rappelle encore donc qui est le commissaire et directeur artistique de cette exposition. Merci, bon dimanche. Et puis on se donne rendez-vous en septembre pour le grand forum.
Voilà. Avec grand plaisir.
Donc on va en parler. Merci d'être passé nous voir. Mon nom est Cyril Écoile.
Néo Québec, dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant.